Bienvenue à Sur la ligne, cette émission Tout Tennis, premier épisode de la saison 3, et ça en sera tout un. D'abord, on revient sur la victoire historique du Canada à la Coupe ATP, et on va le faire en compagnie de Valérie Tétrault. On regarde également ce qui s'est passé dans les autres tournois. Et évidemment, on vous dresse un portrait et on commente la situation de Novak Djokovic. Hugues Léger, bonjour. Nicolas Richard, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce premier épisode de la nouvelle saison de Sur la ligne, le balado, l'émission de radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. Bonjour les gars, très content de vous retrouver. D'abord, je vais prendre de vos nouvelles. Nicolas Richard, qui est rendu un membre de la presse, je te dis mes plus sincères félicitations une fois de plus. Moi et Hugues, on est particulièrement fiers de toi, mon ami.
Yes, ben c'est très, très cool. On s'est occupé. Puis quand on parle de sport, ben c'est pratiquement pas du travail. Vous savez, les gars comme moi, qu'on est assez privilégié de faire ce qu'on fait, là, tout dépendant avec le médium avec lequel on le fait. Et puis, ben, parler de sport, ben c'est un privilège. Hein. Fait que non, je suis très heureux de faire partie de la presse et de continuer ici avec vous à chaque semaine.
Et merci de ne pas nous abandonner malgré que tu sois rendu un big shot.
Wow, on fait ce qu'on peut, donc, mais évidemment, toujours un plaisir, les gars, de travailler avec vous. Puis il y a juste du beau qui s'en vient pour le podcast. Là, on l'a vu avec. Vous allez sûrement en parler, là, mais pendant l'ATP Cup, là, nos chiffres ont augmenté de manière assez fulgurante. Là, donc, chapeau à toute l'équipe là, qui travaille aussi derrière la caméra. Il y a juste du beau qui s'en vient pour le podcast sur la ligne.
Hugues Léger, comment te portes-tu?
Ça va bien, très bien. Alex, je suis content de partir. C'est une année qui commence sur les chapeaux de roue pour le tennis. Je fais pas de jeu de mots en disant chapeau de roue. Nicolas, je vais te féliciter. Moi aussi, c'est une belle acquisition que la presse plus a fait en entrant dans l'équipe de journalistes sportifs. Je pense que ça démontre aussi la qualité de l'équipe de sur la ligne. Pas pour se lancer de fleurs là, mais je pense qu'on a une très belle équipe pour amener les sujets d'actualité tennis au grand public. Et l'équipe de Jean-François Tremblay de la presse vient de se doter d'un très bon nouveau membre aussi. Donc très très content de toi, mon cher Nicolas. Et oui, content de vous retrouver moi aussi. On sent que c'est l'été en Australie, même que ça chauffe en Australie en ce moment. Donc, c'est un bon moment pour commencer la saison tennis ensemble.
Messieurs, en vous souhaitant la bonne année, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais quand même prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous appuient depuis le début dans ce projet-là, notamment Tennis Canada, l'Omnium Banque Nationale. Tennis Canada ont cru en nous dès le début, et on pourra en parler avec Valérie un peu plus tard dans l'émission. Je veux aussi souligner l'apport du 91.9 Sport qui, presque depuis le début, en fait, est intéressé à travailler avec nous dans ce projet-là, et évidemment l'Hôtel Montville, duquel on diffuse l'épisode d'aujourd'hui. Moi et Hugues, on est à quelques mètres un de l'autre à l'Hôtel Montville, en plein cœur du centre-ville. Alors déjà des partenaires avec nous pour ce beau projet. Et j'intègre également à la conversation une autre personne qui nous aide beaucoup dans ce projet-là, Abraham Santerre. Bonjour Abraham, qui est aussi à l'Hôtel Montville avec nous.
Oui, je suis avec vous. Bien content d'être avec vous aujourd'hui.
Merci une fois de plus pour tout ton travail. Merci d'avoir fait la run de lait avec moi jusqu'à 6h, 6h15 le matin pour la finale de la Coupe ATP. Et je peux vous dire, monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu ma chronique à la radio à 9h15 le matin. Je peux vous dire qu'il y avait une petite voix enrouée pendant la chronique et il y a eu sommeil avant et après la chronique.
Ben écoute, moi, je fais tout ce qui est possible pour avoir une belle casquette du podcast sur la ligne. Je suis bien content, là.
Tu la mérites, ta casquette, oui. mon cher Abraham. D'ailleurs, on a des casquettes pour tout le monde. Et puis, ben, on en a fait faire même pour les partisans, les fans. On va en faire tirer éventuellement. D'ailleurs, je veux remercier les gens qui ont participé à la discussion avec nous pendant notre émission d'avant-match pour la finale de la Coupe ATP. On a eu du monde qui sont venus jaser avec nous pendant toute l'émission. Puis ça, c'était vraiment une première. C'était vraiment le fun de pouvoir jaser directement avec les partisans. C'est une expérience que... on va refaire assurément. Bon, messieurs, maintenant que les présentations d'usage sont faites à Abraham, je veux dire, il va passer l'émission avec nous aujourd'hui, puisqu'il s'est déplacé au Montville avec le bon Hugues Léger, il habite pas loin. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par le plus gros morceau. Et pour ce faire, on va le faire en compagnie de Valérie Tétrault qui va venir nous aider à parler de la Coupe ATP. Bonjour Valérie.
Bonjour messieurs.
Est-ce que tu as passé un beau temps des fêtes, Valérie, avec ta petite famille? As-tu pu te reposer un peu, même s'il y avait des grosses affaires sur le plan tennis qui s'en venaient pour le Canada?
Oui, un beau temps des fêtes covidien, hein, parce qu'on a tous eu la COVID juste avant Noël ici, donc ça a été très, très tranquille, mais tout le monde est remis, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis, juste à temps justement pour le début de la saison, et il fallait bien avoir du sommeil avant pour être capable de durer la nuit, hein, parce qu'on tombe sur un nouvel horaire.
Ouais, ben écoute, ça peut te rassurer. Moi, je l'ai eu, j'ai testé positif au 23, alors ça a scrappé mon Noël, mon Noël aussi.
Bon, tu me comprends alors.
ouais, on se comprend. J'ai pas pu passer Noël avec ma mère pour une deuxième année de suite. Ça honnêtement, je vous confie quelque chose là. Ça m'a fait quelque chose. Une chance, ma quarantaine a fini autour du 1er janvier, là, donc on a pu quand même passer le jour de l'an ensemble. Valérie, j'en parlais en introduction, je disais. On est déjà rendu à la troisième saison, mine de rien. Avant qu'on parle de tennis, je veux quand même te remercier parce que tu as vraiment été une des premières même à approuver le projet et à pousser pour qu'on fasse un projet. Et ben, je veux te remercier parce que ben, le podcast continue de grandir puis c'est en partie grâce à toi et grâce à l'appui de Tennis Canada et de l'Omnium Banque Nationale.
Ben, moi, j'ai surtout envie de vous remercier, en fait, pour votre dévouement, votre engagement. Évidemment que je croyais en vous pour le podcast, mais c'est tellement le fun de le voir grandir comme ça là, dans les derniers mois, dans la dernière année particulièrement. Il y a eu plein de bonnes nouvelles, puis je suis confiante aussi que l'avenir est assez prometteur. Je pense que c'est bien parti déjà pour 2022.
Puis je veux remercier aussi Tennis Canada et l'Omnium qui nous laissent vraiment beaucoup de latitude pour parler d'à peu près tous les sujets. Là, si vous pensez qu'on est censuré, ben c'est pas le cas. En tout cas, on fait pas exprès non plus pour parler de trucs qui mettraient du monde dans l'embarras non plus, là, mais quand même, on veut prendre le temps de remercier ça. Et je prends aussi quelques instants pour remercier Marc-Antoine qui travaille avec nous aussi de façon plus directe là, à chaque semaine, qui prend le temps de voir qu'est-ce qu'on a produit et de faire notre promotion. Alors, Marc-Antoine, si tu es à l'écoute, merci infiniment pour ton travail. Et voilà, messieurs, maintenant que les remerciements d'usage sont faits, faisons ce pourquoi on est là. Parlons de tennis, parce qu'il s'est passé quelque chose d'absolument phénoménal. Et je vais commencer avec Valérie. Qu'est-ce que ça représente, cette victoire-là du Canada? Parce que c'est quand même une grande victoire. C'est un grand moment du tennis canadien, ce qu'on a vécu en fin de semaine, non?
Oui, c'est un très grand moment. J'ai l'impression que, étant donné que la Coupe de l'ATP, hein, c'est une compétition qui est encore jeune, encore un peu méconnue peut-être pour certains amateurs de tennis, le fait que ce soit en Australie aussi, c'est un petit peu plus difficile évidemment à suivre. Là. Si on parle de la finale en particulier, bon, ça commençait à 1h30 du matin, notre heure. Donc, il y a peut-être juste ça qui était un peu dommage, mais ça reste que c'est un format qui ressemble drôlement évidemment à la Coupe Davis, qui est une compétition très, très prestigieuse, qu'on connaît très bien. Et là, ben, je trouve que déjà en 2019, le Canada, évidemment, qui avait fait ses marques, s'était qualifié pour la finale justement contre l'Espagne. Et là, on se disait, ben, ça y est, non seulement on fait partie de la relève, mais maintenant on fait partie des meilleures nations de tennis du monde et ils viennent de le prouver. Ben là, je pense que le message est encore plus passé. Et moi, j'espère juste que cette victoire-là, et c'était beau, je trouvais, de voir la chimie, évidemment, entre Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. On sait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. C'est ça qui est beau aussi dans cette histoire. Ils ont grandi ensemble. Ils ont gagné la Coupe Davis chez les juniors en 2015. Et ils ont une grande fierté de représenter leur pays, de pouvoir inspirer les plus jeunes. Et là, j'espère que ce succès-là leur a donné encore plus envie d'aller chercher aussi un titre à la Coupe Davis et disons que j'y crois plus que jamais.
Ouais, ben, puis tu fais bien de souligner que c'est une compétition qui prend un certain prestige année après année et faut remarquer aussi que, tu sais, il y avait des grands noms dans cette compétition-là. Ne pensez pas que, tu sais, Medvedev était là, c'est le meilleur joueur au monde présentement, Medvedev. Là. Alors, il était là. Valérie, avant que je lance les autres intervenants, peux-tu dire à quel point le Canada est revenu de loin dans cette compétition-là. Parce qu'en perdant le premier match et une première défaite, je veux dire, Hugues nous en parlait un peu plus tôt cette semaine, mais on donnait pas cher de la peau du Canada. C'est tout un revirement de situation que de finir avec le trophée dans les mains.
Oui, puis même, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin. Hein. Avant même le début du tournoi, bon, on reçoit ce résultat positif-là de la COVID de Denis Shapovalov. Là, on se pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'il va être en mesure de jouer? Est-ce qu'il n'aura pas le temps de finir sa quarantaine avant de pouvoir amorcer le tournoi et dans quel état il sera aussi. Là, pour n'importe qui a eu la COVID, c'est pas toujours facile non plus la récupération. Et effectivement, bon, s'ensuit une défaite assez sévère, quand même 3-0 contre les États-Unis. 4 défaites de suite si on inclut le premier match qui avait été perdu par Denis Shapovalov, son premier duel en simple contre la Grande-Bretagne. Et c'est là, je trouve, où on a vu finalement le rôle de leader de Félix Auger-Aliassime, qui, bon, pour la première fois, était numéro un sur cette équipe, qui en avait pas mal sur les épaules. Et là, il s'est levé, a joué tout un match face à Cameron Norrie, qui quand même est tout près du top 10, donc est un joueur qui est en pleine montée après la fin de sa saison 2021. Et par la suite, ben, de les voir justement en double ensemble, je pense que là, c'était le début un peu de notre plaisir. On a commencé à y croire, mais pas trop non plus, parce qu'on se disait, il y a pas mal d'affaires qu'il faut qu'il arrive en même temps pour que le Canada puisse assurer une place en demi-finale. Et c'est comme si les étoiles s'étaient alignées. Les bons pays ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Puis de notre côté, ben, nos joueurs se sont assurés de bien faire leur boulot sur le terrain. Donc, ben, c'est devenu franchement très, très plaisant à suivre. J'ai adoré voir la victoire, évidemment, de Félix aussi face à Zverev. Pour parler de Félix, peut-être un peu particulièrement, je parlais qu'il était numéro un sur cette équipe, mais imaginez-vous la préparation qu'il a eue, lui, avant les internationaux d'Australie. Je pense que c'est clé, des matchs contre des joueurs très, très bien classés, de grosses victoires. Je parlais de Zverev, mais de battre aussi Cameron Norrie, de battre également Roberto Bautista Agut. Donc, il va arriver avec beaucoup de bagages aux internationaux d'Australie, beaucoup de confiance. Et en plus, il a eu la chance quand même de se mesurer au joueur de l'heure, qui est Daniil Medvedev. Donc, que du positif. Et comme je le disais, ben, c'était le fun de les voir aussi en double, je trouve, évoluer ensemble. Une équipe qui a eu beaucoup de succès chez les juniors. Et là, on se permettait de leur demander en conférence de presse, ben, est-ce que vous allez peut-être penser jouer ensemble un peu plus souvent maintenant sur le circuit? Moi, ça me fait rêver, oui, je disais à la Coupe Davis, mais même peut-être, qui sait, aux Jeux olympiques dans quelques années.
Messieurs, il ne faudrait plus inviter Valérie, elle est trop bonne, elle nous fait mal pareil. Dernière petite question pour toi, Valérie. Tu as été sur le terrain comme eux. Comment tu as vécu ça, de regarder ça à la télé? Je suis sûr que c'est plus stressant de le regarder à la télé que d'être sur le terrain. Hein?
Toujours. Puis je pense que les joueurs eux-mêmes vous le diraient, ceux qui sont sur le banc. Là, je suis persuadée que Braden Schnur et Steven Diaz étaient probablement aussi brûlés que Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime après les rencontres. Oui, c'était stressant parce que c'était un moment important pour le tennis canadien. Puis on dirait que dans les dernières années, oui, il y a eu la victoire de Bianca Andreescu, mais c'est arrivé tellement de fois où on s'est incliné en finale. On y arrivait, puis là, on croyait au rêve. Hein. C'était le cas pour Leilani Fernandez aux internationaux des États-Unis l'an dernier. C'était le cas en Coupe Davis en 2019. Mais là, de se dire, OK, 2022, c'est l'année où on va aller jusqu'au bout et où on va gagner. Je pense que, justement, c'est ce qui était encore plus excitant du résultat.
Et là, messieurs, j'aime taper dans le dos un peu, messieurs et Valérie, là, parce que à tous ceux qui parlaient de Félix qui choquait en finale, je veux dire comme ça. Est-ce qu'il n'a pas performé cette semaine en finale? Est-ce qu'il n'a pas été absolument exceptionnel? Je veux dire, même sa défaite contre Medvedev, bon, parfait, mais c'est le meilleur joueur au monde, mais ben, pour tout le reste, il a été absolument phénoménal. Je vais passer à mon équipe, Valérie, si ça ne te dérange pas, et je vais commencer, okay, messieurs, avec celui qui a fait la ronde de lait avec moi, Abraham Santerre. Commentaire général sur cette finale-là. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as réussi à pas fermer les yeux jusqu'à la fin, sûrement, parce que tu as publié les résultats? Alors, j'espère que oui.
Ouais, je me suis levé à une petite nuit de 11h à 1h. Puis après ça, je me suis levé pour tout écouter ça. C'était vraiment bon. Mais Félix m'a surpris en finale ATP pour une première fois. Il a performé vraiment comme il fallait. Il a gagné ça, puis il a ramené la coupe à la maison, comme on pourrait dire.
Abraham, tu es un des plus grands fans de tennis au Québec, ça c'est certain. Ouais. comment tu as vécu ça? Là, parle-nous des émotions de voir le Canada performer et repartir avec le trophée dans une compétition aussi prestigieuse.
Ben moi, je pense qu'on s'y attendait, là, que ça arrive bientôt, parce qu'avec Félix et Dennis en pleine forme, tout peut arriver. Et de faire ça en blanchissage comme ça, ça, je m'y attendais pas. Je pensais qu'on irait au double final, mais pour vrai, je suis content et je m'y attendais. Fait que je suis pas tant surpris. Puis j'ai célébré en silence dans ma chambre.
Pour pas réveiller ton père, hein?
Ouais, exactement, parce que mon père n'a pas toffé jusqu'à la fin.
Non, ton père était là une partie de la soirée. On voyait passer des commentaires là, ouais. dans les conversations qu'on a faites. Nico, toi, tu travaillais, j'imagine, le lendemain matin. Comment tu as vécu ça, cette compétition-là? Est-ce que tu l'as écouté en direct ou est-ce que tu l'as écouté enregistré le lendemain matin?
Je l'ai écouté en direct à 3 quarts réveillé, là, je vais vous avouer bien franchement, mais ce qui m'a fasciné de cette finale-là, puis c'est peut-être c'est ma lecture, puis comme je vous dis, je n'étais pas tout là, fait que, c'est à quel point le Canada a réussi à s'en tirer sans accroc majeur. C'est-à-dire que oui, au premier set, on a vu, notamment dans le match de Félix, il y a eu une certaine adaptation. Ça n'a pas été facile tout au long du premier set, sauf qu'une fois que la machine était mise en marche, Félix n'a jamais regardé derrière. Dennis aussi, pareil, beaucoup d'aisance, peu d'accroc. Et oui, on s'attendait peut-être à une victoire du Canada, du moins je pense que tout le monde ici l'avait prédit. Je pense Alex, c'était le seul qui l'avait fait en deux manches, mais pour ma part... comme Abraham dit, on s'attendait à ce que ça aille dans le duel final en double. Mais ça m'a fasciné à quel point les deux joueurs ont été hyper à l'aise, sans dire que ça a été facile. Ça avait l'air facile pour les deux Canadiens, puis c'est ce qui m'a le plus impressionné de cette finale-là.
On reviendra sur des trucs un peu plus spécifiques, comme tu le dis, là, mais Hugues, commentaire général sur cette victoire-là?
Ben, je suis hyper fier et impressionné de la performance en ATP Cup cette année. C'est un peu une vengeance de la finale perdue contre l'Espagne en Coupe Davis en 2019. Oui, sans Nadal, mais quand même avec deux excellents joueurs du côté espagnol. Ce que je retiens surtout, c'est cette complicité, cette confiance entre Félix et Dennis qui a sûrement fait la différence. Il y en avait toujours un pour rattraper l'autre s'il y avait un petit enjeu. Donc, ils ont pris le lead, chacun leur tour. Et c'est là que je pense que la force de notre équipe s'est révélée, notamment dans le double décisif contre la Russie. Et c'est un élément qui a été mentionné aussi en conférence de presse par Dennis, notamment là, cette confiance, puis qu'ils se connaissent depuis longtemps. Puis on le sait, dans des situations comme ça, de pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir savoir ce qui va se passer, notamment en double, comment l'autre va réagir, ça fait une grosse différence. Il y a moins de doutes. Donc, ça te donne la fraction de seconde de plus pour gagner. Donc, on a une très, très belle équipe et je suis extrêmement fier aujourd'hui.
Ouais, tu fais bien de souligner parce que ça a vraiment été une victoire d'équipe. Et Valérie, à quel point la victoire de Chapeau, la première, a pu enlever de la pression à Félix et lui permettre de jouer relâché? Est-ce que ça peut jouer ça dans la tête d'un athlète, de dire, bon, OK, si jamais le pire scénario arrive, je perds, il reste quand même le double. Est-ce que ça peut avoir fait une différence dans la performance de Félix contre Bautista Agut?
Assurément. C'est une des raisons, je pense, pourquoi on met l'affrontement entre les deux numéro un en deuxième, hein, parce que la pression est d'autant plus présente dans ce deuxième affrontement, parce que forcément, il y a un des deux joueurs qui joue pour garder son pays en vie. Mais j'ai aimé la manière de répondre de Félix sous pression, peu importe la situation. Mais c'est clair, et Hugues faisait bien de le mentionner, parce que on avait vraiment l'impression dans chaque rencontre que s'il y en avait un qui était juste un tout petit peu en dessous, peut-être du niveau qu'il était capable d'atteindre, ben c'était l'autre qui venait compenser. Et je pense que tous les deux, ils l'ont senti. Et c'est pour ça que c'était presque de la magie, finalement, cette espèce de chimie-là entre les deux. Et pour deux gars qui n'ont pas nécessairement, encore une fois, l'habitude de jouer ensemble à chaque semaine, ça paraissait pas sur le terrain. On aurait dit qu'ils faisaient équipe pratiquement à travers toute la saison.
À quel point ça peut être déterminant pour la carrière de Félix qui vient de se passer là? Est-ce que ça peut être un point tournant selon toi?
Ben, ça peut certainement pas nuire. Moi, je serais pas surprise que ce soit un déclic. Bon, je pense que déjà en 2021, on les cherchait et on les identifiait, ces moments-là qui pouvaient être un déclic. Il y en a eu un certainement en 2021 dans les tournois du Grand Chelem, où avant l'année dernière, ben, ça avait été difficile pour lui de vraiment faire de grandes percées. Mais il y avait toujours cette fiche, hein, en finale, 8 défaites consécutives, et ça venait le suivre, ça venait le hanter. Et là, bon, même si puis il y a peut-être un astérix parce que c'est une compétition par équipe, c'est pas un tournoi nécessairement individuel, et puis la prochaine fois qu'il va se retrouver dans une finale d'un tournoi de l'ATP, on va quand même parler de cette statistique-là, mais ça reste que pour lui, c'est tout de même une finale gagnée, et ben il a tout le crédit, parce qu'évidemment, encore une fois, il était le joueur numéro un, il a joué tous les matchs, il n'était pas sur le banc de son équipe, comme ça a été le cas parfois en Coupe Davis, et donc je pense que ça peut le lancer, et encore une fois, ben, les grosses victoires qu'il est allé chercher aussi. Moi, je m'attends honnêtement à une grosse saison de la part de Félix. Là, je faisais mes prédictions au mois de décembre sur 2022, puis mon top 10, c'est sûr que Félix en faisait partie. Et ben, je serais vraiment pas surprise de le voir même aller aussi loin qu'une finale de Grand Chelem.
En même temps, c'est un peu fou quand on y pense de dire on cherche des clics alors que le gars est 10, 11e, 9e mondial. Tu sais. C'est un peu.
Mais depuis le début. Depuis le début de la carrière de Félix, c'est ça qui est fou. Hein? Notre niveau d'attente est tellement élevé parce qu'on parle de lui comme le prochain Federer depuis qu'il a 14 ans, alors qu'il performait dans les Challengers à Grimby. Et là, c'est comme si ça allait jamais assez vite par rapport à nos attentes à nous. Mais lorsqu'on regarde ça avec un peu de recul, on se dit « Tabarouette, le gars, il performe depuis qu'il est jeune. » Et puis, c'est à nous aussi d'un petit peu ajuster nos attentes dans une période où le tennis est super fort.
Il est le plus jeune du top 10. Il ne faut pas oublier ça. Et pour la défaite, les défaites en finale, là, moi, il y a une phrase que je dis toujours. Ben, c'est pas moi qui l'a dit, là, mais je la répète. Pour perdre en finale, il faut que tu te rendes en finale.
Ouais.
Alors, la plupart des joueurs ne se rendent pas en finale. Enfin, messieurs, commentons les matchs. Messieurs et Valérie, excuse-moi, là, Valérie, là, c'est vraiment comme une déformation.
Je ne prends pas personnel.
Mais allons-y un peu plus en détail. Nico, je commence avec toi. Analyse du match Chapeau-Carreño Busta. C'était pas un adversaire facile parce que Carreño Busta avait vraiment l'avantage dans les confrontations. Et on en parlait avant le match. Il avait même l'avantage sur dur et non pas sur terre battue. Alors, il y avait rien qui allait pour Chapovalov, mis à part le rythme qu'il avait en arrivant dans ce match-là.
Oui, puis on disait aussi dans notre émission en direct sur Facebook que oui, il y a la statistique que Denis avait perdu 4 duels contre lui, mais dans ce genre de tournoi, dans ce genre d'événement, j'essaie de faire abstraction de ces stats-là parce que l'ambiance est différente, le contexte est différent aussi, et ça a paru. Qu'est-ce qu'on a dit de Carreño Busta tout au long de notre live? On a dit que c'est un joueur tenace, qui aime les longs échanges et qui ne sera pas facile à battre. Denis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un copier-coller du jeu habituel de Carreño Busta, c'est-à-dire il a été tenace, il a été dur à battre, il a aimé les longs échanges. On a senti Denis à l'aise extrêmement rapidement, puis j'ai senti même Carreño Busta un peu décontenancé de « Hey, d'habitude, c'est moi qui lead les échanges, d'habitude, c'est moi qui mène la charge, et là, c'est le jeune Canadien qui s'en occupe. » J'ai vraiment aimé la manière de réagir de Denis, et ce que, puis, évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression que Denis a beaucoup étudié Carreño Busta par des vidéos, par des conseils d'entraîneur, parce qu'on a vraiment vu que rapidement, il a trouvé la faille dans le jeu de l'Espagnol. Et ça portait fruit dès le début du match. Là, rapidement, on a senti, je ne sais pas pour vous, là, mais j'étais confiant. Dès que Denis a commencé le match, là, après 3-4 points, je me suis dit, ça y est, s'il peut juste continuer à jouer comme ça, s'il peut maintenir la cadence, ça en sera fait de l'Espagnol, et c'est ce qui est arrivé.
Hugues, moi, ce que j'ai constaté dans ce match-là, et je le dis toujours, Nico et Hugues, vous avez des connaissances techniques pas mal plus élevées que moi en tennis, et Valérie encore plus. À quel point il a été solide dans les points importants, ce qu'on appelle les points de pression, là, les balles de bris contre lui ou les opportunités de briser?
Oui, il a été très solide. On sait que le jeu de Denis comparé à Félix est un peu plus…
High risk, high reward.
Oui, exactement. Il est un peu plus échevelé. On ne sait jamais sur quelle journée on va tomber. Puis il y a eu plus de mauvais que de bons dans la dernière partie de la saison l'an passé. Mais là, ses coups fonctionnaient. Donc, effectivement, il a bien pris la mesure de son adversaire très, très tôt. Mais ses coups à haut risque réussissaient aussi. Donc, il a toujours été en attaque. Il a semblé toujours dominer le match pour ça. Mais c'était une bonne journée pour Denis. Hier, lors de la finale, mais encore une fois, quand il joue comme ça, il peut battre tous les joueurs au monde. Donc, c'est une journée où il savait avec quelle mission il arrivait sur le terrain, et son jeu d'attaque a fonctionné. Et c'est là que la différence s'est faite contre Carreño Busta.
Valérie, quelle est ton analyse de la spécialiste?
Ben, un peu comme le disent Nico et Hugues, je pense que Denis Shapovalov, c'est un joueur instinctif. Hein? Et lorsque ça fonctionne, qu'il est sur le pilote automatique et qu'il n'y a pas de doute dans son esprit, exact. Qu'il ne se pose pas de questions, ben là, on le sait, ça devient un joueur de très, très grand talent qui, effectivement, est capable de battre à peu près n'importe qui, est capable de faire mal paraître quelqu'un comme Carreño Busta. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Moi, ce que j'étais curieuse de voir après la première manche, c'est s'il allait être capable de maintenir ce niveau-là aussi tout au long du match. Et je pense que c'était là la plus grande satisfaction au final de, oui, offrir un haut niveau, mais de le maintenir pendant tout le match. Ben, franchement, c'était du grand Denis Shapovalov.
On en a parlé un peu déjà, mais quelle est ton analyse de l'autre match, celui de Félix contre Bautista Agut? Moi, j'avais hâte de le voir, ce match-là, parce que ça avait été tellement un bon spectacle au US Open. Et ça a été quand même encore un bon match, moins haut en couleur, moins un thriller, mais quand même un bon match. Ça a été quoi ton analyse?
Ouais, ben moi aussi j'avais hâte de voir ce duel-là parce que il y avait quand même une histoire là aussi, deux joueurs qui se connaissaient bien. Oui, Félix l'avait battu la dernière fois en 5 manches au US Open, mais il avait perdu contre Roberto Bautista Agut lors de la finale de la Coupe Davis. Donc, je suis persuadée que les deux joueurs avaient aussi ce match-là en tête avant la rencontre. Je pense qu'au final, le plus important, hein, c'était de remporter le premier set qui était tellement serré et puis il y avait un peu de nervosité, je pense, de part et d'autre. Et quand Félix est allé chercher ça, on a senti comme une espèce de soulagement. Après ça, il était un peu plus détendu et puis il a pu faire parler finalement son talent et son tennis dans la deuxième manche.
Nicolas Richard, je vais aller avec Abraham en premier. Abraham, ton analyse de ce match-là qui était aux petites heures du matin.
Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ce match-là, même si je commençais à sentir la fatigue embarquer. Je voulais que Félix gagne parce que je ne voulais pas aller au double. Mais ce que j'ai noté qui est le plus intéressant, c'est que la dernière fois, mais il s'était affronté en finale de la Coupe Davis en 2019. Et à ce match-là, Bautista Agut, c'était le premier match, avait gagné 7-6-6-3. Et là, cette année, 2021, finale de la Coupe ATP, Félix a pris sa revanche, comme j'ai dit samedi dans le Facebook Live, et a gagné 7-6-6-3, le même score, et le même score dans le tie-break du premier set aussi. Donc, je trouve que ça fait du bien pour Félix. Et, ouais.
Ouais, stats intéressantes. Parlant de stats, Nico, quand je regarde le pourcentage de première balle de Bautista Agut à 71%, il était même à 76%, je pense, après le premier set. C'est quand même un haut pourcentage, puis Félix a quand même pu l'embêter et gagner sa match en 2-7.
Oui, tout à fait. Puis si tu as les stats sous les yeux, regarde donc le pourcentage de points gagnés en deuxième service de Félix. Parce qu'on disait lors de notre live que c'était le problème de Félix. Les deuxièmes balles, oui, lorsqu'il sert son gros premier, ça fonctionne, mais en deuxième, c'est plus difficile.
52%.
Bon, mais tu vois, c'est déjà un petit avantage de plus. Et aussi, ce qu'il faut souligner, là, c'est que il a été efficace aussi sur les balles de bruit. Félix souvent fait face à des balles de bruit, puis son deuxième a embarqué, puis ça a souvent été clé pour Félix, ce qui n'a pas été le cas pendant toute la durée du tournoi. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui a changé dans sa manière de faire dans ses deuxièmes, ou simplement le fait d'être plus en confiance, mais sa deuxième a vraiment été un élément clé dans ce match-là.
Valérie, est-ce que je me trompe en disant que 71% de première balle, c'est quand même un haut pourcentage et arriver à gagner contre un gars qui sert avec une belle régularité comme ça, c'est quand même assez complexe et surtout le faire en 2-7.
Ouais, c'est clair. Je dirais que quand on a une première balle de qualité, là, on peut viser aux alentours de 60-65%, puis on considère ça comme une bonne journée de boulot. Donc, lorsqu'on est à 70% et plus, ben là, c'est une excellente journée au travail. Mais ça demeure que le service, hein, c'est souvent l'élément qui nous permet de dire si Félix est en confiance ou pas. Et pas juste Félix, là, à peu près tous les joueurs. Dès que c'est plus compliqué, au service, ben, ça affecte le reste du jeu aussi, alors que quand on a un joueur qui est en confiance, ben là, on sent justement qu'il peut probablement y aller un petit peu plus sur les deuxièmes balles, va oser prendre plus de risques pour varier aussi les deuxièmes balles de service, et ça, c'est clair que c'est payant et que ça apparaît tout de suite dans le jeu de Félix.
Hugues, quelle a été ton appréciation de ce match de Phoenix?
On parlait un peu de la progression de Phoenix. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de déclics qui se font en ce moment. Effectivement, il voulait pas un match compliqué comme il y avait eu au US Open. Donc, il a vraiment appris, je crois, de ce match de 5-7 du US Open. Et il voulait venger cette défaite aussi de la Coupe Davis de 2019. Donc, moi, c'est ça que j'ai retenu surtout. On sent une certaine sérénité maintenant chez Phoenix. On parle de notre impatience à le voir performer. Je pense qu'il passe les étapes à grande vitesse en ce moment. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation où il doit s'adapter, il le fait maintenant. N'oubliez pas que 2019, 2018, ces défaites, ou 2021, 2020, pardon, souvent, ces matchs importants perdus, c'est la première fois qu'il était dans une situation semblable contre un joueur XY. Là, on le voyait contre Carreño Busta ou contre Batista Agut, pardon, dans une situation où il savait quoi faire et maintenant, il a exécuté. Puis effectivement, quand il a passé le premier set, c'était conclu. Après, moi, j'étais presque sûr qu'il gagnerait en 2-7 après sa victoire au tie-break du premier set. Donc, on voit qu'il apprend très vite et c'est pour ça qu'il nous laisse penser qu'il va monter encore au niveau du top 10 assez rapidement.
Mentalement, je pense que juste de savoir qu'au US Open, il avait été capable de durer 5 manches aussi exact. Contre Batista Agut. Vous savez, les Espagnols sont reconnus comme étant des joueurs qui physiquement sont tellement forts. Bon ils peuvent être plusieurs heures sur le terrain. Donc, ça, c'était pas un souci non plus, je pense, dans la tête de Phoenix. Puis, tu as raison de dire que finalement, ça nous démontre qu'il apprend beaucoup de chaque expérience. Et ça, c'est bien parce qu'il est jeune, il est encore en plein développement et ça veut dire qu'il continue de s'améliorer aussi.
Ouais, Nico soulignait, toi, dans notre émission d'avant-match, à quel point les Espagnols, ce sont des marathoniens sur le terrain. Ils ont à peu près tous cette réputation-là de pouvoir durer longtemps. Et rappelons-nous que ce match-là a mal parti pour Phoenix. Si je me trompe pas, il a parti 0-2, ce match-là. Alors, il est revenu de l'arrière en partant. Tu sais, des fois, un mauvais début de match, ça peut te suivre tout le reste de la rencontre. A gagné au prix d'égalité. Il a été tellement bon, lui aussi, dans les points de pression, dans les points importants. Hugues, t'allais ajouter quelque chose?
Non, mais c'est ça. Il y a vraiment une sérénité, une jeune sagesse, je dirais, chez Phoenix déjà. Moi, c'est ça qui me fait croire que on a un grand champion qui se développe en ce moment devant nous. C'est cette espèce de sérénité que les joueurs plus expérimentés ont sur le circuit, qui semblent déjà avoir à un si jeune âge.
Ouais, ben lui, à 13 ans, il avait la maturité d'un gars de 33, là. Alors, tu sais, c'est pas très surprenant de voir comment il se développe. À quel point, Valérie, c'est une grande victoire pour le Canada? Place-la dans le contexte pour nous.
J'ai envie de dire, peut-être pas tout à fait aussi grande que la victoire de Bianca Andreescu, parce que c'était une première en grand chelem, mais quand même très, très importante. Bon, on a juste à regarder le nombre de points que ça a donné à Phoenix. Ça nous situe à peu près entre un ATP 500 et un ATP 1000. Fait qu'imaginez si Phoenix Dennis remportait un Masters 1000, ce serait gros. Et je pense que de toute façon, comme on le disait en entrée de reportage, la Coupe de l'ATP va continuer de grandir, d'être de plus en plus reconnue. Et plus elle aura des années d'expérience, bien, plus ça va devenir prestigieux de gagner ce tournoi-là. Mais de toute façon, il y a tellement de bons joueurs qui y participent que c'est ça qui est fabuleux de la victoire du Canada.
Et la bourse était élevée, là, c'était un prize money de 10 millions de dollars. Là. Et Phoenix, je regardais de la façon dont on distribue les bourses, là, c'est-à-dire que c'est fait avec chaque victoire, tu vas chercher. Il y a un montant de base et après chaque victoire, tu vas aller chercher un certain montant. J'ai pas fait le calcul exactement, là, mais Phoenix, il va être allé chercher et Dennis vont aller chercher un montant qui va dépasser notre salaire au podcast, messieurs. Ça, je peux vous
d'après moi, ils couvrent leur cadeau de Noël aussi, là, ça va.
C'est absolument certain. Ben Valérie, merci infiniment d'être venue commenter la Coupe ATP avec nous. On te laisse retourner à tes communiqués de presse, à la préparation pour l'Omnium Banque Nationale, parce que j'imagine que vous êtes déjà dans la préparation pour ce qui s'en vient.
Ça commence. On pense à la Coupe Davis aussi, Beijing King Cup. Une année qui devrait être occupée, puis on aime ça comme ça. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment un plaisir de vous retrouver. Puis je vous souhaite un très, très bon début de saison.
Merci infiniment, Valérie. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va parler des autres résultats qui étaient des autres tournois qui étaient disputés cette semaine. Et évidemment, on va faire un commentaire sur ce qui s'est passé avec Djokovic. quel travail encore phénoménal de Valérie Tétrault, monsieur. Elle est incroyable. Et tu sais, je dis à la blague qu'elle nous fait mal paraître, mais tu sais, c'est presque pas une blague. Elle est tellement une bonne analyste. Et, elle est à rendre jaloux tellement elle connaît bien le tennis et peut en parler avec une aisance assez phénoménale. Messieurs, il y avait d'autres résultats. Il y avait beaucoup de tournois quand même qui se passaient en même temps. Il y avait beaucoup d'actions qui se passaient en même temps que la Coupe ATP. Commençons peut-être, bon, puisqu'on était chez les hommes, là, continuons du côté des hommes. Avec Nadal, Nico, qui a remporté un autre tournoi. On savait même, c'était même pas clair qu'il allait jouer, lui, au mois de janvier. À la surprise de tout le monde, et à la surprise, je dirais, de tout le monde.
Oui, de tout le monde.
Termine avec le trophée dans les mains.
Mais c'est ce qui est fascinant, parce que Nadal, on le sait, s'est retiré de l'Omnium Banque Nationale au mois d'août en raison de blessures au pied. Depuis ce temps-là, Nadal est assez discret. Oup, revient dans l'actualité en décembre parce qu'il contracte la COVID. Là, on se dit, bon, est-ce que son début de saison sera amputé? Là, soudainement, met sur Instagram qu'il est en Australie, qu'il est arrivé, qu'il est fin prêt, en santé, en forme, prêt à conquérir la planète tennis à nouveau. Et là, on se dit, bon, OK, il y aura une période d'adaptation. Ben non. Nadal qui revient en force et qui gagne le tournoi de Melbourne contre Maxime Cressy, qui est 112e mondial. Mais quand même, c'est un 250, certes, mais c'est un titre important. Puis les gars, honnêtement, on parle beaucoup... Bon, là, on y reviendra de Djoko, là, mais on parle beaucoup de la possibilité qu'il remporte un 21e Grand Chelem en Australie. Je serais pas prêt à écarter Nadal tout de suite, moi.
Ben, écoute, je pense pas qu'il est dans les... comment dire? Les contenders de premier plan, je vais dire ça comme ça, mais... Il ne tomberait pas en bas de ma chaise non plus s'il terminait avec le trophée dans les mains. Là, il reste encore plusieurs facteurs à voir, notamment le plus important, est-ce que Djokovic va y être? On en reparlera. Hugues, c'est quand même phénoménal ce que Nadal réussit à faire. Je veux dire, il ne joue pas en presque pas en un an. Résultat phénoménal.
Oui, ben, c'est qu'on voit que Nadal est un compétiteur exceptionnel, hors pair. Je pensais pas non plus qu'il reviendrait à ce niveau-là tout de suite. C'est un tournoi de préparation pour l'Open d'Australie. Mon Dieu, il se rend jusqu'au bout, il gagne le trophée. Très impressionné, puis je vous ai écrit un peu à la blague, mais là, je suis plus certain si c'est une blague. Si jamais Djokovic ne peut pas jouer l'Open d'Australie, c'est peut-être Nadal qui va arriver avec le chiffre 21 en premier. Donc, c'est la première réflexion que je me suis faite. J'aurais jamais dit ça il y a 3 semaines avant qu'il reprenne sa saison. Donc, extrêmement étonné et impressionné encore une fois de Nadal. Puis, je dirais que le mot impressionné, c'est souvent le mot que j'ai utilisé pour décrire Raphaël Nadal. Je me disais que je le verrais plus sur son émission de télé qui parle de son académie que sur les terrains professionnels. Mais ça, c'est bien reparti pour une nouvelle saison pour Nadal.
C'est impressionnant parce qu'il avait presque pas joué. C'était un 89e titre pour lui. Il avait presque pas joué depuis Roland Garros, en fait. Il a joué un peu, là, mais il a presque pas joué par la suite. Et surtout, je pense que c'est une 19e année de suite avec un titre. C'est incroyable. T'sais, on sait que c'est une légende, Nadal. Là. Mais 20 ans avec un titre, tu sais, presque 20 ans avec un titre sur le circuit de l'ATP, c'est phénoménal. Abraham, commentaire sur cette victoire-là de Nadal?
Ouais, ben 19 ans avec un titre, c'est un record. On a vu, plus tôt, on va parler de mon fils. Lui, c'est 18 ans de suite avec une finale. Aussi, c'est très impressionnant. Mais ce que je voulais dire, c'est que Nadal, on lui a demandé pourquoi tu te mets autant de pression. Ça doit être difficile là, à garder ce niveau-là, à cet âge-là. Mais il a dit, ben moi, j'aime ça, me mettre toute cette pression-là. Puis, c'est pas pour rien que je reste dans le monde du tennis. C'est ma passion, c'est ça que j'aime. Fait que je pense qu'on n'a pas fini de le voir sur les terrains.
Ben non, puis moi, je vais le prendre aussi longtemps qu'il le voudra. C'est comme Andy Murray, c'est comme Federer. Moi, s'il va jouer jusqu'à 50 ans, je m'en fous qu'il perde au premier tour. Je vais les prendre autant qu'ils le voudront. Alors, c'est une belle victoire, messieurs. Un autre qui a une longévité assez incroyable, messieurs, sur le circuit, c'est Gaël, mon fils. Il a terminé avec le titre. Et lui, je pense aussi, c'est 18e année de suite avec une finale. C'est débile mental.
Moi, les gars, moi, je comprends pas qu'avec le style de jeu qu'il a, il parvienne à perdre ici dans le temps. C'est ça qui me fascine.
Nadal, c'est la même chose.
Ben oui, tout à fait. Je me dis à la rigueur, un Federer qui joue longtemps, qui ça se comprend, tu sais, est capable de s'économiser. C'est pas le gars qui se pitch à terre. Il est assez retenu dans ses mouvements. Nadal, mon fils, deux joueurs qui se donnent à 1000% à chaque fois. Honnêtement, je pense que j'ai vu mon fils plus souvent au sol que debout. Depuis que je suis le tennis, là, franchement. Là. Puis ça me fascine à quel point ce gars-là est encore au sommet de sa forme. Honnêtement, on ne peut que lui lever notre chapeau. Puis on parle souvent des grands joueurs de notre génération. Puis Abraham, on est à peu près de la même génération. Là, on parle de Nadal, Federer, Djoko, Murray. Mais mon fils, je suis désolé. Là. C'est un des grands du monde du tennis. Je pense qu'on lui accorde pas assez d'importance parce que, seigneur, que il a marqué les esprits. Puis honnêtement, peut-être avec Kyrgios, c'est un des joueurs les plus électriques que j'aurais eu la chance d'avoir dans ma vie.
Ben, moi, je pense qu'il passe à l'histoire comme le plus spectaculaire joueur de l'histoire du tennis. Hugues, t'en penses quoi?
Celui qu'on surnomme Sliderman parce qu'il réussit à glisser sur un terrain dur comme sur terre battue. Moi aussi, je suis impressionné que physiquement, il réussisse à tenir le coup encore. Il a été blessé quand même souvent, mais il revient à chaque fois au plus haut niveau. Et dans cette génération de joueurs français, qui est une génération exceptionnelle, avec les Tsonga, Gasquet, Gilles Simon, c'est lui encore qui performe au plus haut niveau. Donc, Gaël, mon fils, et j'en profite pour dire, là, je parle des gagnants du week-end dernier. Nadal, mon fils, chez les filles Alep et Barty, mais si on prend Nadal, mon fils, Alep, trois vétérans qui gagnent le premier tournoi de la saison. Très, très impressionné. J'aurais pas misé sur aucun de ces trois-là. Donc, mon fils remporte le tournoi avec un nouveau commanditaire. Je vais en parler parce que, bon, vous savez que le marketing sportif m'intéresse particulièrement. Sa relation avec Wilson et ASICS s'est terminée. Il est maintenant commandité par Artengo, qui est la marque maison du groupe Decathlon, la bannière française. Raquette Artengo, vêtements Artengo. Chez Decathlon, il devait être pas mal content ce week-end parce que souvent, on se dit, ouais, les marques maison, c'est un petit peu moins de la performance que les grandes marques nationales. Mais il vient de prouver qu'il y avait un équipement de premier niveau et qu'il pouvait gagner avec cet équipement-là aussi, comme avec n'importe quelle raquette. Et on sait qu'Artengo, c'est une marque qui mise beaucoup sur l'innovation. Ils ont des très, très bons produits. Donc, je pense que c'était gagnant-gagnant pour son commanditaire Decathlon, autant que pour lui ce week-end, Gaël, mon fils. Mais je suis vraiment fier de le voir gagner encore un tournoi.
Dans la génération de joueurs français, tu n'as pas nommé Benoît Paire. C'est un plus volontaire.
Benoît Paire, je le mettrai pas dans la même batch parce que je ne donnerai pas les mêmes qualificatifs que les quatre que je viens de nommer. Par contre, au niveau du talent, il pourrait, s'il décidait d'aligner ce qui se passe dans sa tête un peu, Benoît Paire.
Et n'oublions pas que cette génération-là de Gasquet, de mon fils, elle a été développée par un certain Louis Barfiga.
Exact.
Celui qui est venu développer la génération d'or qu'on va avoir pour les 15 prochaines années. Je veux juste le souligner. Et messieurs, je ne sais pas si c'est moi qui avait manqué ça dans l'actualité, mais ça m'a surpris. Je ne sais pas si vous avez entendu la conférence de presse de Gaël, mon fils, qui a dit qu'il a presque pensé à prendre sa retraite, abandonner le tennis, qu'il n'avait plus la même motivation.
Il faut qu'on remercie, qu'on prie Elina Svitolina, oui, qui l'a forcé à rester dans le monde du tennis.
Un bon point.
Il n'aurait pas eu ça.
Non, Abraham, tu as tout à fait raison. Puis je pense que les deux, en bénéficiant en ce moment, Vitalina a fait aussi quelques commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que leur amour et leur passion commune pour le tennis les motive à performer aussi. Donc, effectivement, c'est un bon point.
Et ça, c'en est un autre, moi, que je vais prendre jusqu'à ce qu'il ait 50 ans. Je m'en fous s'il veut. C'est tellement un des plus belles ambassadeurs du tennis, Gaël, mon fils, des dernières années. Tu sais, oui, il y a les Federer, les Djokovic, puis il aurait peut-être bien été numéro un mondial s'il n'avait pas frappé la plus grande génération de tennis de l'histoire du tennis. T'sais. Alors, merci, Gaël, d'être encore là. Et viens nous jaser au podcast si jamais tu veux. Ça nous fera plaisir de parler en français avec toi. Alors voilà, ce sont deux résultats qui ont été marquants au courant de la fin de semaine. Du côté des femmes, je regardais les tableaux, messieurs, là, c'était des tournois de moins grande envergure, mais les tableaux étaient particulièrement relevés. Et les gagnantes, écoutez, messieurs, si le début d'année, si le passé est garant de l'avenir, il n'y aura pas beaucoup de changements dans le top 10 si on se fie à ce début d'année-là. Barty, la numéro 1 mondiale, qui l'emporte, Nico.
Oui, qui remporte le tournoi d'Adélaïde, même tournoi auquel Leila a participé notamment. Donc, en battant Elena Rybakina 6-3, 6-2, Barty, qui... C'est fascinant à quel point on tend à oublier Barty parce qu'elle n'est pas volubile, parce qu'elle n'est pas la coqueluche des réseaux sociaux, parce qu'elle n'est pas l'une des têtes d'affiche principales de la WTA nécessairement sur le site web ou sur Instagram. Mais bon Dieu qu'elle est efficace lorsqu'elle participe à des tournois. Barty a été sensationnel. Honnêtement, je pense, lorsqu'on a vu Swiatek jouer contre Leila, je me dis, OK, elle est vraiment dans de bonnes conditions. Je pense que c'est elle la future championne de ce tournoi-là. Elle va commencer l'année en force. Et là, Barty qui se pointe, qui casse tout. Tu l'as dit, Alex, si Barty joue comme ça tout au long de l'année, je pense que le poste de numéro un mondial va rester le même de janvier à décembre.
En tout cas, elle va être une sérieuse candidate au titre en Australie, ça c'est certain. Hugues Barty qui reprend là où elle a laissé.
Ben oui, vous savez tout le bien que je pense de Ashleigh Barty. Je pense qu'elle reprend la saison là où elle l'a laissé l'an passé. Quand elle est en forme en ce moment, elle est intouchable. Je vois aucune des joueuses là, du top 10 en ce moment la challenger si elle arrive à 100% de sa forme en ce moment. Donc, aucune surprise de voir Ashleigh Barty l'emporter en Australie, chez elle. Elle va vouloir le titre d'Australian Open et elle montre qu'elle est prête. Et j'étais tellement content de voir Simona Halep que je ne voyais plus revenir à ce niveau-là aussi. Simona Halep qui remporte un trophée aussi ce week-end, qui revient un peu de loin. J'ai l'impression qu'avec la pandémie, il a peut-être été salutaire dans certains cas parce qu'il y a eu du repos. Il y a peut-être des blessures qui ont pu être guéries. Donc, Simona Halep montre qu'attention, elle est toujours là. Donc, début de saison étonnant pour Simona Halep.
Et est-ce que Halep sera la Muguruza de 2022?
C'est-à-dire qu'elle va effectuer un gros retour, tu veux dire, dans le sens où...
On l'attendait moins, Muguruza.
Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie si loin que ça, quand même, Simona Halep.
Non, mais Halep, on l'a quand même un peu oublié au cours, comme Hugues l'a dit, de la pandémie. Il y a eu comme une espèce de... Pas de laisser aller, mais bon... C'était moins ça, on l'a moins vu. Lorsqu'on faisait nos poules, on les mettait peut-être moins loin qu'on l'aurait mis habituellement. Et là, remporte le premier tournoi de l'année, qui est celui de Melbourne. Honnêtement, Halep aussi, il ne faut pas l'oublier, les gars. On sait à quel point, je pense qu'on l'aime tous là, sur le podcast, là. Mais Halep, dans de bonnes conditions, attention.
Il faut dire, Nico, que toi, quand tu fais tes poules, tu ne regardes pas comme il faut les tableaux puis tu mets n'importe qui va en finale. Ça, faut-tu le rappeler? Si les gens ne savent pas de quoi je parle, allez voir la vidéo des prédictions de Wimbledon, vous allez voir. C'est-tu Peng Shui, justement, que tu avais amené loin?
Non, t'es en train de chercher, je pense que c'est Shuang Hui ou un truc du genre, mais non, c'était pas Peng Shui.
Non, c'est ça. Voilà, j'ai perdu mon idée, mais tout ça pour ramasser Nico, en fait, c'était ça l'idée.
C'est juste un prétexte pour me puncher dans la face.
Exact. Ah non, ce que j'allais dire, c'est que, oui, j'allais compléter sur ton idée, c'est que, oui, on l'a oublié un petit peu, mais c'est parce que Halep, elle est un peu à l'image de Barty, c'est pas elle qui fait le plus grand nombre de vagues, elle est quand même assez réservée, tu sais, c'est pas celle qui flash le plus, et ça, en dépit du fait que c'est une des grandes joueuses de sa génération, et j'oserais dire presque une Canadienne d'adoption là aussi, en cas de Simona Halep.
Oui, à chaque fois qu'elle vient à l'Omnium Banque Nationale, la communauté roumaine se met derrière elle, puis c'est fantastique.
Mais c'est une des plus grandes championnes du tournoi en plus.
Ah oui, puis c'est, je pense aussi, tu dis que c'est pas l'une des joueuses les plus volubiles sur le circuit, mais je suis convaincu, moi, que c'est l'une des plus appréciées par les autres joueuses. Elle a tout le temps l'air d'avoir le sourire. Lorsqu'elle va au filet à la fin des matchs, les joueurs sont tout le temps pressés de lui taper dans la main, donc je suis convaincu que Halep, là, regardez-la aller. Ça se peut que je la mette dans une finale quelconque dans nos poules Grand Chelem cette année, les gars.
Et Hugues, vous voulez acheter quelque chose dans le chat? Tu peux le dire
je vais ajouter un point parce qu'on sait que Naomi Osaka s'est retirée de ce tournoi-là. On aime les joueuses qui s'expriment sur le terrain. Donc, c'est quand on parle de Barty, quand on parle de Simona Halep, c'est le meilleur exemple. Et c'est là qu'on veut que tout le talent et que toute la connaissance et l'intelligence s'expriment. Donc, je tiens quand même à le souligner. Halep, c'est un très bon exemple aussi. C'est pas une fille qui va parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Il va nous partager ses états d'âme. Par contre, quand elle arrive sur un terrain de tennis, elle est prête pour performer et nous montrer ce qu'elle a dans le ventre.
Oui, c'est culturel d'une certaine manière. Je pense au Québec, on n'aime pas trop... on aime les gens humbles qui performent et qui parlent par leurs gestes plus que par la bouche, je veux dire, c'est comme ça. Abraham, commentaire sur cette victoire-là de Simona Halep?
Sincèrement, moi, j'ai pas beaucoup suivi le côté féminin cette semaine. J'étais concentré sur Nadal, mon fils et la TP Cup, mais je suis content de voir Halep revenir. En checkant les résultats, j'ai été vraiment surpris de la voir gagner aussi facilement. Et aussi, dire ça comme ça, Naomi Osaka, qui a déclaré forfait en demi-finale pour se préserver d'énergie pour l'Australian Open. Osaka pourrait faire des flamèches dans les prochaines semaines, mais on va voir comment elle va.
Ouais, elle n'a pas été mauvaise, Naomi Osaka. J'étais un peu inquiet de la voir se retirer, mais elle avait quand même battu Petkovic là, et Alizé Cornet au premier tour. Alors,
c'est intéressant de voir. C'est purement pour des raisons d'énergie, parce qu'elle a souvent fait ça dans les dernières années. Ah. La dernière Australian Open qu'elle a gagnée, elle avait fait ça au tournoi juste avant, US Open aussi. Donc, c'est une tradition qu'elle suit purement.
Ben, c'est la championne en titre de ce tournoi-là. On a l'impression que c'est très loin, là, Naomi Osaka, mais enfin, à moins que je me trompe, mais c'est la championne en titre de ce tournoi-là. Elle l'a gagné en janvier l'an passé. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. C'est un début de saison à l'image l'image de ce qu'on s'attendait peut-être du côté des femmes et du côté des hommes, mais les vieux routiers sont encore là. Ça va rendre les choses intéressantes pour l'Australie. Mais si on va faire une autre courte pause et au retour, on parle de Djokovic. Messieurs, c'est le sujet de l'heure. Il est partout. Et là, je vais vous demander, messieurs, de faire un résumé de la situation. Nicolas, tu as écrit sur le sujet dans la presse. Hugues, tu as fait des interventions à la radio aussi. Nico, dresse-nous le portrait général de cette situation, j'oserais dire chaotique, de Novak Djokovic qui a tenté de se rendre en Australie pour jouer le tournoi. Fais-nous un peu la genèse de cette situation-là, puis on va donner les derniers développements aussi qui se sont passés.
Oui, la semaine dernière, Novak Djokovic débarque à l'aéroport de Melbourne, confiant qu'il allait pouvoir disputer le tournoi d'Australie parce que les organisateurs des internationaux d'Australie lui avaient donné la permission exceptionnelle de jouer en dépit du fait qu'il ne s'était pas prononcé sur le fait si oui ou non il était vacciné. Alors, Novak se présente à l'aéroport, comme il le fait pratiquement chaque semaine à travers le monde. Et là, on lui dit un petit peu, mon ami Novak, là, premièrement, tu n'as pas rempli tous les documents nécessaires pour ton entrée en Australie. Et deuxièmement, es-tu vacciné? Parce que nous ici, c'est un critère, tous les voyageurs, tous les étrangers doivent, pour entrer sur nos terres, être vaccinés. Et là, on a mis Novak en isolement, en quarantaine, dans un petit hôtel de Melbourne pour, finalement, s'apercevoir avec les douanes australiennes que Novak n'était pas vacciné. Ça fait longtemps que le doute plane, quoi qu'on le savait un peu, là, parce que s'il avait été, il l'aurait dit, puis ça aurait évité bien du trouble, mais c'était pas le cas. Donc, beaucoup de gens disent au début qu'on a remisé son visa, qu'on avait annulé son visa de travail, mais le visa qu'il avait était valable et c'était le même pour tous les autres joueurs qui avaient été admis en Australie pour les différents tournois. Et donc là, ce qu'on a su, finalement, comme je le disais, c'est que la seule condition pour laquelle il n'a pas pu être admis en Australie, c'est parce qu'il n'était pas vacciné. Ça en est suivi tout un tollé. D'abord, le président de la Serbie qui a pratiquement déclenché un incident diplomatique avec le premier ministre australien en disant que la Serbie s'abattra pour l'honnêteté et la vérité et nous vaincrons, à peu près, grossièrement, c'est résumé comme ça. Ensuite, les parents de Novak, qu'on a après à découvrir au cours des derniers jours, rapidement, on comprend d'où vient Novak à peu près, là. Grossièrement, ce que dit son père, c'est que la Serbie, c'est Novak, et que Novak, c'est la Serbie. Tous ceux qui s'attaquent à Novak s'attaquent à la Serbie. Et il a même jusqu'à comparer Novak avec Jésus, rien de moins, en disant « Comme notre fils, Jésus a été crucifié, on l'a obligé de se mettre à genoux et pour l'éternité, il vivra. » Ça donne une idée du type. Et puis finalement, dans sa chambre d'hôtel, devant, qu'est-ce qu'on avait? Ben, il y avait des vigiles organisées par des partisans serbes qui chantaient, qui allumaient des bougies et qui insultaient, qui entraient en contact avec de simples passants australiens qui portaient le masque. Ça donne une idée là, dans quelle merde Djokovic s'est foutu. Et donc là, lundi, Djoko passait devant le juge en Australie pour voir si oui ou non il pouvait participer aux internationaux d'Australie. Le juge, de ce qu'on comprend, là, c'est encore assez flou comme dossier, là, lui a donné la permission de jouer, mais là, ça va aller sûrement en appel. Le dossier n'est pas terminé. Ce matin, là, en date de lundi, il a mis une photo sur Instagram disant « Je suis fin prêt à disputer l'Omnium d'Australie, je suis à Melbourne, on l'a vu faire des accolades avec certains des membres de son équipe. On l'a vu pratiquer. C'est un flou monumental, d'autant plus que Novak, paraît-il, aurait contracté la COVID le 16 décembre dernier et que le lendemain, le 17, il aurait été dans un tournoi sans masque, serré des mains, parler aux gens, rencontrer le public. Honnêtement, Hugues va pouvoir mieux en parler que moi, là, mais j'ai l'impression que ce sera vraiment difficile pour Novak de se relever de cet échec marketing, de visibilité-là, parce qu'on a beau le dire, là, puis c'est pas la première fois qu'on le dit sur le podcast, lorsqu'on compare Nadal, Federer et Djokovic et qu'on se demande qui est le plus grand, clairement, au cours des derniers jours, Djokovic vient de s'éliminer de cette discussion-là, parce que jamais au grand jamais, avec les agissements qu'il a commis au cours des derniers jours, on pourra mettre Djokovic devant Nadal et Federer sur le plan purement en ce qui a trait au meilleur ambassadeur de l'histoire du tennis. Clairement, Djokovic s'est retiré de la conversation.
Excellent résumé, Nico. Hugues, tu voulais ajouter quelque chose, puis moi, je vais faire quelques précisions par la suite.
Ben, il y a plusieurs éléments dans la situation. Moi, je retiens surtout aujourd'hui, au moment où on se parle, parce que ça évolue toujours, cette situation-là. C'est même si le juge lui permet de rester en Australie, c'est pas garanti encore qu'il va jouer le tournoi. Je m'attends à ce qu'il y ait d'autres développements encore. Mais ce que je retiens, c'est ce cafouillage entre les organisateurs du tournoi et les autorités gouvernementales. C'est là où il y a eu un gap, là, parce que selon le tournoi, il s'en venait, il y avait eu les documents qu'il fallait, il pouvait jouer, et les autorités ont dit non, attention, on lui retire son visa, il ne sera pas en mesure de jouer. Et je me dis que peu importe comment ça va se terminer, il va avoir une suite à cette situation-là. Si jamais les autorités trouvent une façon de lui retirer son visa à nouveau, ce qui n'est pas impossible, parce qu'ils ont l'autorité finale pour le faire, Novak Djokovic pourrait poursuivre le tournoi. Là, il y a des enjeux incroyables. Ce fameux chiffre 21 qui est l'objectif pour lui là, de remporter son 21e Grand Chelem et de passer définitivement devant Nadal et Federer. Il y a des enjeux économiques qui sont rattachés à ça pour lui, pour ses commanditaires aussi, et pour le tournoi aussi. Donc, moi, j'ai l'impression que si jamais les autorités le font sortir, il va avoir une poursuite monumentale contre les organisateurs du tournoi qui lui ont dit « OK, viens ». Et après, ben, il y a des éléments auxquels Nicolas faisait référence. C'est ce statut de plus grand joueur de tous les temps qui vient, encore une fois, être bousculé parce que ça va au-delà des statistiques. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Djokovic, c'est pas un grand champion parce que son comportement en dehors du terrain et des fois même sur le terrain est très, très questionnable. » Donc là, effectivement, il vient de prendre un pas de recul et ça va être difficile pour lui de s'en remettre, je pense. Mais ce qui a soulevé l'ire des médias et du public aussi en Australie, c'est qu'oubliez pas que l'Australie était l'un des pays qui était sous les règles les plus strictes durant la pandémie. Donc forcément, les gens sont pas contents de voir ça. Là. Qui il est non vacciné, même s'il y a une dérogation qui lui a été accordée pour rentrer comme ça au pays et jouer le tournoi. Donc j'ai hâte de voir jamais comment les spectateurs vont comporter vis-à-vis de lui d'une part. Mais encore une fois, c'est pas une saga qui est terminée. Et comment Djokovic, son entourage, sa famille gère ce sujet-là en ce moment? C'est pas pour redorer son blason dans l'œil du public, ça c'est garanti.
Messieurs, je vais ajouter quelques éléments de chronologie là, pour faciliter la compréhension des gens. Là. Novak Djokovic a demandé une exemption au tournoi. La date limite pour faire une exemption pour les non-vaccinés était le 10 décembre. Son test positif à la COVID est venu le 16 décembre. Alors moi j'ai des questions. Parce que ça signifie qu'il avait prévu avoir la COVID? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et là, il a demandé des exemptions. Hugues a bien fait de le préciser, c'est-à-dire que le tournoi, il a consenti visiblement une exemption, sinon il ne serait pas venu, mais visiblement, il y a un manque de communication entre les autorités australiennes et les autorités du tournoi. Mais moi, j'ai d'autres questions, et peut-être que vous allez pouvoir m'aider à y répondre, c'est-à-dire que, bon, si la demande était le 10, donc il a fait, j'imagine, sa demande d'exemption avant le 10, mais à ce moment-là, il n'avait pas un test positif à la COVID, est-ce qu'il avait prévu avoir la COVID pour pouvoir accéder au tournoi sans se faire vacciner? Honnêtement, je ne comprends pas c'était quoi son plan. Je sais pas. Nico, as-tu une réponse pour moi?
Je pense simplement qu'il pensait que le fait d'être 9 fois champion du tournoi serait suffisant pour lui accorder un passe-droit. Je pense que c'est purement là, Je pense que c'est ça. Je pense que c'est carrément ça. Lui, il s'est dit, je suis le plus grand champion de l'histoire. C'est pas vrai que le tournoi où j'ai gagné 9 fois, où je pourrais gagner 10e fois, et d'autant plus devenir recordman du plus grand nombre de grands chelems, c'est pas vrai qu'il va me dire non. Évidemment, bon, on a vu qu'il avait quand même raison. Là, le tournoi lui a donné le droit de jouer. Fait qu'il n'y a pas eu 100% tort. Mais ce qu'on disait aussi, c'est que Djoko, dans son équipe, je ne sais pas si il était purement ignorant ou c'est vraiment quelque chose en quoi il croyait, mais eux, ils se disaient que selon leurs études, selon leurs recherches, c'est populaire ça depuis 2 ans, là, si tu avais attrapé la COVID, tu étais immunisé. Donc eux, ils se sont dit, on l'a déjà eu, c'est comme un vaccin, on la recontactera pas. Finalement, bon, on a su par après qu'il l'aurait eu le 16 décembre, mais je pense que ces deux éléments-là, le fait qu'il l'a déjà eu, pensait que ça l'immunisait, puis de deux, cette espèce d'aura du champion, je pense qu'il pensait que ça allait être suffisant pour lui pour passer.
Abraham, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, si je peux ajouter quelque chose, on a déjà eu le journaliste Ben Rutterberg au podcast, mais lui, il suit ça de très près. Puis dernièrement, il a eu accès au fichier qui explique que le test de Djokovic est négatif. Et là-dessus, il y a un code QR. Et le fameux code QR, on est capable de scanner avec nos téléphones. Fait que là, Ben Rutterberg, il a dit, essayez de le scanner, gang, on va voir ça donne quoi. Et là, certaines personnes, ça donne positif. Certaines personnes, ça donne négatif. On dirait que c'est mélangé. On dirait que le système en Serbie, il est un petit peu... Il y a beaucoup de bugs, on dirait. Donc, c'est à suivre.
Ouais, ça, c'est un élément qui s'ajoute au dossier. C'est embêtant. Moi, je pense que j'ai été surpris de la décision de la Cour hier. Je ne m'attendais pas à ce que cette décision-là soit renversée. De ce que j'en comprends, je ne suis vraiment pas un spécialiste. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Là, moi, j'en ai écouté une partie du procès hier. Première des choses, je comprends pourquoi je ne suis pas devenu avocat. Là. College, que c'est incroyablement plate à écouter. C'est pas fait pour le spectacle, messieurs, je vous dis ça. De ce que j'en comprends, on l'a laissé rentrer au pays parce qu'il aurait visiblement fait tout ce qu'on lui avait demandé, ou à peu près. C'est ça. En dépit du fait qu'il respecte peut-être pas les règles, il aurait rempli toute la paperasse correctement. De ce que j'en comprends, là, c'est résumé bêtement là, de ce que j'ai compris. Mais là, Hugues, comme tu le disais, c'est pas fait. Il va pas nécessairement jouer le tournoi parce que même si on lui a permis officiellement de rentrer au pays, on l'a même vu taper des balles sur le site de l'Omnium d'Australie, le gouvernement pourrait renverser cette décision-là et le détenir à nouveau finalement.
Oui. Moi, je pense qu'on rentre là aujourd'hui dans une guerre de communication et Djokovic a été très smart avec son équipe d'aller tout de suite sur le court central à Melbourne pour dire « Hey, excellente décision, je suis vraiment content d'avoir pu sortir de cette quarantaine-là. Je remercie tous les gens de leur appui. » Encore une fois, c'est le gouvernement qui paraît mal organisé dans cette situation-là et le traitement, disons, questionnable. Et là, évidemment, comme la Cour l'a libéré, il va gagner quelques appuis publics à travers ça. Et on voit de plus en plus de joueurs qui semblent changer leur avis un petit peu sur le fait qu'il a peut-être pas été bien traité. Donc, moi, j'ai senti ce matin un genre de revirement de situation et le fait qu'il pose tout de suite du cours central, ben voilà, il est là. Je pense qu'il va être difficile de lui enlever à nouveau son visa. Donc, c'est ma perception très, très personnelle, là, mais je pense que tout ça aurait dû être beaucoup mieux géré avant. Et depuis, on a parlé un peu durant l'automne, les gars, vous en souvenez, je vous avais dit, il va trouver une façon de jouer. C'est trop important. Je sais pas comment il va le faire. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment il va y arriver, mais il va trouver une façon de jouer ce tournoi-là, que ce soit par des voies légales ou autres. Et je pense qu'il est en train d'y parvenir en ce moment. Donc, on rentre dans une guerre de communication en ce moment entre les autorités et Djokovic et le tournoi.
Et là, Nico, tu l'as effleuré dans ton résumé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un débat qui a vraiment polarisé beaucoup en Australie. Il y a beaucoup de monde qui sont fâchés, offusqués de ce qui s'est passé et qui en veulent à Djokovic et qui en veulent au tournoi et au gouvernement australien de l'avoir, qu'on soit rendu là dans cette situation-là. Mais inversement, il y a beaucoup de partisans qui se sont rangés derrière Novak Djokovic et il est devenu presque une figure de martyr d'une certaine manière pour les anti-vaccins, disons-le comme ça. Qu'est-ce que ça va... quelles conséquences ça peut avoir sur son image de marque? En fait, même pas son image de marque, sur son héritage, Hugues, qu'il va laisser au tennis?
Ben c'est ça. J'en parlais un petit peu plus tôt. Moi, je pense que... Il y a deux choses, encore une fois. S'il joue... Attendez-vous à voir du grand Djokovic. Parce que ces situations-là, où il est dans des contextes adverses, où il y a les gens contre lui, ce qu'il a vécu à plusieurs reprises, dans les plus grands moments de sa carrière, en finale contre les Nadal, Federer, et c'est là qu'il sort le plus fort, il va arriver avec les crocs. Hein, on l'appelle The Wolf maintenant. Là, c'était The Joker avant, et maintenant c'est The Wolf. Là, il va avoir les crocs d'un loup, si jamais il joue. D'ailleurs, notre ami Nick Kyrgios a fait un commentaire là-dessus. Il dit « J'aimerais vraiment pas se jouer contre lui si jamais il joue, parce que il va vouloir tout démolir sur son terrain. Il va arriver là, comment dire, bille en tête là, pour gagner ce tournoi-là. Maintenant, pour la question de son héritage, je reviens sur ce que je disais tantôt. Là, il vient de prendre un gros pas de recul encore une fois. Fait que là, ça va être comment on évalue le meilleur joueur de tous les temps, le fameux greatest of all time, le GOAT. Et là, il vient de prendre 3 ans de retard. On se disait en fin d'année, ben, finalement, ça va être lui le GOAT. Là. Si on regarde tout ça, on met tout dans le mix au niveau stats, au niveau personnel. Mais là, ça va être difficile pour lui de s'en relever au niveau, encore une fois, de son attitude, de son personnage public. Il vient renforcer cette situation-là qu'on vit tous les jours en ce moment de polarisation. Je pense que dans le tennis, dans les fans de tennis, il va y avoir une grande polarisation qui va s'installer sur Djokovic pour son héritage.
Les gars, vous êtes peut-être des gens raisonnables, intelligents, capables de réflexion critique. Avant qu'on parle de ce qui pourrait venir dans le cas où il joue, je vous pose la question suivante. Est-ce qu'on en fait une trop grosse histoire?
Non, parce que ça fait 2 ans qu'on est à 100% sur le fait qu'on veut guérir de la COVID. Nous quatre, les gars, puis tous les auditeurs, on est tannés de cette maudite pandémie. On veut que les choses se règlent. Ça prend le vaccin. Il n'y a pas 12 clés, il n'y a pas 12 solutions, il n'y a pas 12 alternatives. Il faut que les gens se fassent vacciner. Et là, de voir qu'un ambassadeur, qu'un gars qui a une tribune, un grand champion, être du côté, pas de l'ennemi, mais du côté des anti-vax, il devient un peu le porte-parole de cette cause-là, de ces gens-là qui, eux, disent que la pandémie, ça n'existe pas, que c'est pas si grave et que ça ne vaut pas la peine de se faire vacciner. Comme Hugues l'a dit, oui, on retourne 3 ans en arrière sur le plan tennistique, mais on retourne de 2 ans en arrière sur le plan de la COVID aussi, parce que là, c'est de repenser à la manière de gérer les tournois, de gérer les cédules, de gérer les voyages, et là, de voir qu'un des plus grands athlètes de sa génération, l'un des plus grands de l'histoire, est du côté de ceux qui retardent le groupe.
Exact.
C'est pas bon pour personne. Ouais, vas-y, Hugues, vas-y.
Voilà, mais tu dis exactement, c'est la bonne chose, Nicolas. Il devient... La personnification, c'est le numéro un au monde, du plus gros problème des autorités à travers le monde en ce moment. Imaginez à quel point c'est une situation qui est compliquée.
Il n'y en avait pas tant, je pense. Là.
Comment?
Il n'y en avait pas tant avant lui, là, des athlètes qui...
Non, exactement.
Cette ampleur-là, là.
Exact. Donc là, ça vient spectaculariser cette réaction ou cette résistance au niveau du vaccin, parce qu'on sait que Djokovic résiste au vaccin. Donc c'est ça que le gouvernement australien doit jouer en ce moment, ce avec quoi il doit composer en ce moment. Et ça va avoir un impact pour plein d'autres tournois et plein d'autres pays qui vont devoir accepter ou pas les joueurs non vaccinés durant leur tournoi. Donc voilà, moi je pense que on rentre dans un problème politique maintenant, encore plus que sportif.
Les gars, je peux ajouter quelque chose. Là. Si jamais Djoko, là, il ne joue pas, là. Supposons que finalement, là, on renverse la décision et qu'il ne peut pas jouer. Je ne souhaite vraiment pas à Nadal de gagner le tournoi. Pourquoi? Parce que s'il remporte son 21e, tout au long de sa carrière, on va dire, il a battu le record en dépit du fait que Djoko n'était pas là et que Djoko aurait sûrement gagné. Fait que, oui, là, c'est plus de la fantaisie, puis on n'est plus vraiment dans l'importance de la COVID, mais pour l'histoire, pour ce que ça pourrait représenter, j'espère vraiment que Nadal ne le gagne pas si Djoko ne joue pas. Sauf que s'il le gagne et que Djoko joue, là, on vient de confirmer son statut. Puis ça, ce serait une méchante claque dans la face de Djoko.
En même temps, s'il y a un joueur pour lequel le fait qu'il remporte un titre de grand chelem de plus sans Novak, ça ne serait pas trop grave. Je pense que c'est bien Nadal, parce qu'il n'y a plus rien à prouver. Je veux dire, de ce point de vue-là, Medvedev, peut-être, je pourrais comprendre, dire, OK, ben, c'est un titre où là, Djoko n'était pas là. Mais pour ce qui est de Nadal, je veux dire, on parle d'un des plus grands, puis certains vont dire le plus grand de l'histoire du tennis. Rendu là, s'il remporte un grand chelem de plus. OK, je comprends, le chiffre est légendaire. Mais ouais, qu'est-ce que tu allais acheter?
Sur le plan marketing, Hugues, si tu imagines une finale, là, supposons qu'on fabule, une finale Nadal-Djoko. Vaccin, anti-vaccin. Nadal qui chiale après Djoko.
La foule sera en délire.
Quand on va promener Nadal, cette finale-là, là, je pense, honnêtement, ce serait le plus écouté de l'histoire.
Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît.
J'en rêve.
Excellent point.
Puis Nadal, il l'a lancé un peu en dessous de l'autobus, Novak Djokovic. Il l'a fait poliment, cela dit. Il faut lire entre les lignes. Mais il ne faut pas oublier que 90% des joueurs sont vaccinés pour l'instant. Si pendant un bout, il y avait comme une espèce de 50-50 ou un flou, même ceux qu'on voyait comme certains récalcitrants, je pense à Tsitsipas ou Stepoklas, son statut vaccinal, il est au tournoi. Il semble très content d'être là. Alors, visiblement, c'est fait vacciner ou il a obtenu les exemptions nécessaires. Là, mais je pense qu'il
est très content que Djoko soit vraiment dans les manchettes parce que lui, il dit mais finalement, mon histoire. Mais oui, Nadal Djoko, ça serait.
Ça serait vraiment quoi? Bon, messieurs, j'ai une question pour vous, puis c'est vraiment une discussion intéressante, puis on va prendre le temps d'en parler comme il faut. Nico, tu l'as dit tout à l'heure, Novak Djokovic est incontestablement le plus grand champion de l'histoire de l'Australian Open, de l'Omnium d'Australie. Est-ce qu'on pourrait voir une légende de ce tournoi-là se faire huer, mais avoir la foule complètement contre lui, alors qu'il est la plus grande légende de ce tournoi-là?
C'est intéressant parce que j'avais cette réflexion-là tout à l'heure quand vous parliez, les gars, de l'impact que ça aurait sur les Australiens. Puis je pense que les Australiens, c'est un peuple un peu qui nous ressemble, les Canadiens, à mine de rien. Puis j'ai vraiment l'impression qu'ils vont être capables de mettre l'aspect sportif derrière puis de réaliser que ce qui se passe est injuste pour tout le monde parce que ça fait 2 ans qu'il y a des lockdowns de temps en Australie qui ont réussi à reprendre un petit peu de vie normale, mais que finalement, ils ont tout refermé. Un peu comme nous ici, là. Vraiment, là, les deux situations se ressemblent beaucoup. Puis j'ai vraiment l'impression que Novak va être hué. C'est vraiment l'impression que j'ai. Puis j'ai comme le sentiment que les Australiens vont faire fi de ce qu'il a fait dans le passé sur le plan tennistique pour lui remettre en pleine face que ce qu'il a fait, c'est pas correct.
J'imagine Novak, s'il vient à l'Omnium Banque Nationale plus tard cette année, dans les mêmes raisons et la même situation, je pense pas qu'ici à Montréal, on l'accepterait comme ça. « Ah oui, il vient gagner notre tournoi, on va avoir du fun. » Je pense qu'on va... On va avoir du fun avec à le huer et ne pas l'aimer et prendre pour ses opposants.
Ouais, pour moi, à Montréal, je serais moins. Je sais pas, le temps arrange les choses, on dit. Là. Je serais curieux de voir comment il va être reçu au Canada et ou/slash partout dans le monde, by the way. Là. Parce que, je veux dire, c'est le cas en Australie, mais c'est le cas un peu partout dans le monde. Hugues, est-ce que tu penses qu'il va être hué à Melbourne?
Oui. Je pense que le sentiment général, c'est qu'on fait des sacrifices, nous, depuis 2 ans, on en bave, là, il faut le dire, on n'en peut plus personne, et qu'encore une fois, quelqu'un dans cet état d'esprit-là arrive, et c'est ça, je parle du courant général et de ce qu'il faut faire, et qui s'inscrit en faux face au courant général, je pense que ça va très mal réagir. Là. Moi, je m'attendais, quand je l'ai vu entrer il y a quelques jours en Australie, les médias titraient « You must be joking », les gens revenaient même pas qu'ils rentrent au pays, qui a réussi à trouver une façon de jouer le tournoi. Donc, le contexte est vraiment placé pour qu'il soit dans une situation, au niveau de l'ambiance, extrêmement difficile pour lui. Mais encore une fois, on le sait, ça ne l'a jamais bloqué dans le passé. Il a semblé très touché quand finalement, au US Open, quand les gens ont réalisé qu'il n'était pas pour gagner, il y a eu une ovation, un dernier changement de côté. Ça a touché tout le monde, lui le premier. C'était beau à voir. Mais là, je pense qu'il vient de reperdre le public d'une façon majeure. Ça va être extrêmement tendu dans la foule là, si jamais Djokovic joue. Puis encore plus, comme disait Nico, s'il y a un match ou une finale, je crois pas que ça va être possible au niveau du classement, là, mais si jamais il se rend compte, Nadal et Djokovic, ça va être explosif, là, parce qu'écoute, on souffle là-dedans. Là, lui arrive avec sa légèreté, comment dire, face au problème, ça peut pas passer comme ça. Là.
Hugues, on a vu Guillaume Lemaitre-Vierge perdre des commanditaires importants à la suite de la déclaration de son statut vaccinal. T'es Lacoste, fais quoi?
Ils doivent se poser la question. Encore une fois, dans le contexte actuel, c'est difficile pour une grande marque d'appuyer ce comportement-là si ça s'inscrit pas, ce genre d'attitude-là, dans les valeurs de la marque. Et Lacoste est une marque extrêmement classique, traditionnelle, une grande marque française. C'est pas une marque qui joue sur le volet rebelle ou sur le volet dérangeant comme Nike a pu le faire à plusieurs reprises avec leurs joueurs dans le passé, dans tous les sports en passant. Donc, je pense que Lacoste doit se poser des questions en ce moment pour la suite et ils vont devoir prendre une position d'ici Roland-Garros.
Mais ça, je vais te demander, est-ce que Nike se posait des questions?
Oui, parce que là, on parle d'un... C'est pas une question d'attitude, là. C'est une question de santé et de sécurité sur un truc fondamental qui met la planète en mode ralenti. Donc, je pense que toute marque doit se positionner sur une situation comme ça. Si un, si un de leurs athlètes fait fi du bon sens.
Est-ce qu'on, surtout... va voir, est-ce qu'on va voir un Novak Djokovic habillé comme Aslan Karatsev?
Ben, la question se pose, Abraham, d'une certaine manière, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces marques-là qui sont mainstream, disons-le comme ça, veulent parler au plus grand nombre de personnes possible. Et là, en tout cas, je vais me fier au Canada là, présentement, mais 90% du monde ou à peu près sont pro-vaccin. Alors, ton 10% qui est très vocal, est-ce que tu es prête à te mettre à dos 90% d'une population pour conserver le premier joueur mondial? Ça, c'était la question, par contre, d'une certaine manière, Hugues, c'est que est-ce que tu es prête à abandonner peut-être le plus grand joueur de tennis de l'histoire?
Oui, parce que je pense que, encore une fois, je parle souvent d'adéquation entre la marque athlète et la marque qui va commanditer. Et là, il y a un décrochage phénoménal qui se fait. Là. Donc oui, je pense qu'il y a un moment où Djokovic va faire plus de mal que de bien à une marque. Donc, il y a un décrochage, il va avoir un désintérêt pour une marque. Je pense que ASICS, qui le chausse et aide, qui fait ses raquettes depuis longtemps, doivent se questionner aussi là, sur la suite avec Novak.
Trois questions restent en suspens, messieurs. Un, c'était quoi son plan? Ça, c'est pas clair. Parce que si je vois pas, en tout cas, à moins qu'il y ait des détails que j'ai pas, là, mais j'ai suivi beaucoup Ben Rutherberg, j'ai écouté en cours, j'ai lu beaucoup sur la situation. Je ne comprends pas c'était quoi son plan. De dire, en fait, je pense que le tournoi lui a donné d'espèces de fausses indications parce que visiblement le tournoi n'a pas été clair à son endroit, Hugues, tu veux acheter?
Son plan, c'était de trouver une manière. OK? La fin justifiait les moyens pour que Novak participe au Australian Open et gagne son 21e Grand Chelem. Le seul objectif qui compte là-dedans. Maintenant, comment y arrivait? Anything goes. Et on le voit que c'est un peu ce qui s'est passé. Là. Donc, je pense que c'était de trouver un moyen. D'un point de vue légal, d'un point de vue, comment dire, d'une proximité avec les organisateurs du tournoi. Donc, c'était de trouver un moyen. Et je pense que Novak, encore une fois, est peut-être en train de réussir cette affaire-là. Donc, encore une fois, je pense que les prochains jours vont être fertiles en rebondissement. Il reste une semaine avant le début du tournoi. Il peut se passer plein de choses, mais je pense que son plan, c'était « on va trouver une façon ». C'était ça, son plan.
Deuxième question. Et là, je vais vous demander en quelques mots, messieurs, de répondre rapidement. Nico, jouera pas.
Jouera.
Hugues?
J'aurais jamais pensé que je dirais ça, mais ce matin, je pense qu'il va trouver une façon de jouer. Oui, il va jouer.
Abraham, jouera pas.
Il va jouer malgré la foule qui va pas aimer ça, puis ce sera pas très agréable pour lui aussi, selon moi.
S'il joue, quel genre de précédent t'envoie? Quel genre?
C'est la grosse question. Moi, je pense que les conséquences, c'est, encore une fois, on rentre dans une discussion politique en ce moment et je pense qu'il n'y a pas juste le gouvernement australien et les promoteurs du tournoi qui discutent en ce moment. Je pense que les santé publique, à un autre niveau, sont en train de se parler en ce moment parce que ça va avoir des répercussions pour le reste de l'année et ça envoie un signal qui peut provoquer d'autres enjeux similaires dans d'autres situations, que ce soit au niveau entreprise ou au niveau sportif. Donc, c'est un sujet là, qui dépasse le tennis en ce moment.
À mon avis, ceux qui regardent vraiment ce qui se passe, là, c'est les organisateurs de Roland-Garros, de Wimbledon et du US Open. Parce que là, l'Australie va créer un précédent. Et eux, voilà. Tu vas se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un tel tollé autour de nos tournois à nous qui peuvent très bien se débrouiller sans Djoko? Je pense que les gens les plus attentifs présentement, ce sont les organisateurs des autres grands jeux.
Mais pour Roland-Garros... Pour Roland-Garros, on a entendu, ils ont communiqué que Djokovic pourrait jouer sans problème en France au mois d'août. Okay. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça donne pas de bonne image, mais...
C'est étonnant, ouais. six mois du tournoi, c'est étonnant quand même.
Exact. Et l'Omnium d'Australie a comme sur les épaules, comme tu dis, la jurisprudence sur les épaules là, présentement. Mmh. Ouais, Hugues, tu voulais acheter quelque chose?
Oui, ben, en fait, l'élément d'un point de vue sanitaire, c'est s'il y a la preuve qui a été faite qu'il a eu la COVID et qu'il est immunisé, c'est un des facteurs de dérogation aussi. Là. Donc, mais encore une fois, ça non plus, on n'a pas vraiment la preuve. Ça semble pas être très clair en ce moment. Abraham évoquait l'histoire du QR code du côté serbe. Donc, on sait toujours pas, mais évidemment, s'il a eu la COVID et s'est avéré, il serait immunisé. Dans certaines situations, il pourrait jouer.
Quel débat, malgré tout, assez intéressant. Ça va être une histoire qui va faire jaser pas mal dans les prochaines semaines / mois. Mais si on va avoir été servi en histoire hors tennis dans le monde du tennis.
Hugues est exténué, là. Hugues est brûlé.
Ben, écoutez,
Si je peux ajouter quelque chose pour détailler mon point de tantôt, c'est le ministre des Sports de la France qui a dit que Novak Djokovic va être permis de jouer l'Open de France plus tard cette année. Même s'il n'est pas vacciné.
Parce qu'il aurait eu la COVID.
Là, ça, ils ne disent pas les raisons, mais il pourrait jouer l'Open de France s'il n'est pas vacciné. C'est ce qu'ils disent.
Moi, je suis d'accord avec Nico. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre quelques mois encore parce qu'on n'est pas un revirement de situation près. Si la situation au niveau mondial s'améliore, tant mieux. Mais tu sais, Roland-Garros, ça va venir vite quand même. Là. C'est pas si loin que ça. Mais en tout cas, théoriquement, si on se fie aux dernières vagues, je ne sais pas exactement comment ça en Europe, mais ça devrait au mois de mars, avril, commencer à diminuer. Enfin, on verra comment ça va se dérouler, tout ça. Je suis certain, c'est un débat qui va continuer de faire jaser. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans le reste du monde. Messieurs, on va faire une autre courte pause. Au retour, on va parler de ce qui s'en vient. On va regarder le nouveau classement de l'ATP. Oh, l'émission tire à sa fin, messieurs. Déjà, premier épisode bien rempli. On a fait un peu plus long qu'à l'habitude, mais je pense que ça en valait la peine qu'on prenne le temps de bien étayer tout ce qui s'est passé et surtout de commenter le dossier Novak Djokovic. Hugues, avant qu'on termine l'émission, qu'est-ce qu'on va surveiller cette semaine? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est your time to shine, ce qu'on surveille.
Je tiens à dire, c'est la première semaine de l'année la plus explosive et fertile en rebondissement que j'ai vu de ma vie. Généralement, on recommence à parler de tennis quand l'Australian Open commence, et là, c'est vraiment parti en grand. Mais cette semaine, donc du côté ATP, Adélaïde avec notre ami Gaël, mon fils, qui est premier favori. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer du côté d'Adélaïde. Mais c'est une semaine plus tranquille du côté des hommes. Et du côté des femmes, on a un WTA 500 qui va se jouer du côté de Sydney. Avec Muguruza là, qui va être première favorite ou deuxième, je crois, cette semaine. Donc, Adélaïde du côté des hommes et Sydney du côté des femmes.
Et on va surveiller aussi du coin de l'œil Rebecca Marino parce qu'elle a remporté son premier match de qualification. Nico, nouveau classement, Félix Auger-Aliassime est maintenant bien installé dans le top 10 et 9e rang.
Oui, 9e, donc premier changement en fait de l'année dans le classement top 10. Là, je vous fais la liste rapidement. Là. Djoko, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Nadal, Berrettini, Casper Ruud, Auger-Aliassime et Hubert Hurkacz sont du top 10. Yannick Sinner en est sorti. Et les gars, dangereusement se rapproche un certain Cam Norrie qui est 12e. Terminera-t-il l'année dans le top 10? À voir. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que la lutte sera féroce du début à la fin.
Oui, il a connu toute une fin de saison et il a visiblement un bon début de saison aussi. Pas beaucoup de changements du côté des femmes. Nico, le top 10 n'a presque pas bougé, si ce n'est qu'à l'interne. Swiatek et Badosa ont changé de place. Mais il y en a une qui se rapproche du top 10 à nouveau, c'est Sofia Kenin.
Oui, Sofia Kenin qui a connu tout un début de tournoi cette semaine en Australie. L'an dernier, elle a été blessée en majeure partie de la saison. On l'a pratiquement oublié. Là. Rappelez-vous qu'à un certain moment donné, il y a un an et demi, elle était 4e mondiale. On se disait, est-ce qu'elle est la prochaine numéro 1 mondiale? Ben, finalement, l'an dernier, ça a été plus difficile. Mais là, bon, elle est 12e. Devant elle, il y a Pavlyuchenkova et Ons Jabeur qui la bloquent pour le top 10. Mais si elle continue comme ça, pourrait-elle retrouver un poste régulier dans le top 10, voire dans le top 5? Ça reste à voir, mais oui, le top 10 qui est en début de janvier, là, composé de Barty, Sabalenka, Muguruza, Krejčíková, Pliskova, Sakkari, Kontaveit, Swiatek, Badosa et Jabeur. Donc, encore une fois, la lutte sera serrée. Là. Il y a Rybakina aussi qui s'approche dangereusement. Osaka, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Alep, elle est 15e. Si elle peut engranger des victoires, pourquoi pas? La lutte sera serrée encore une fois.
Et Nico nous proposait hors d'onde de faire notre top 10 au mois de janvier l'année prochaine. L'année prochaine, en 2023, on fera ça pour le prochain épisode. D'ailleurs, j'invite les gens dans les commentaires à nous dire votre top 10. Peut-être qu'est-ce qui sera, de quoi aura l'air le top 10 en janvier 2023. Messieurs, je vous rappelle qu'on est le podcast émission de radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. On est diffusé sur Spotify, Apple Podcasts, partout où vous pouvez trouver vos balados. Le podcast connaît une belle progression. Je remercie les gens et n'hésitez pas à partager et à commenter et à venir voir nos plateformes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Instagram, on est là. Et TikTok, ça s'en vient, je vous le confirme, les gars. On fera du TikTok. Je vous remercie pour votre excellent travail. Je vous rappelle qu'on est les premiers au Canada en français, en tout cas, tout le moins. Et des fois, on a des écoutes un peu partout dans le monde, sans dire qu'on est rendu international. Merci pour votre excellent travail. Nicolas Richard, premier épisode de l'année. Je te donne, comme c'est la tradition, ton mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Abraham. Et bon tennis, tout le monde.